le Nigeria et le Cameroun.
Ah, d'accord.
Mais voilà, on est aussi intervenu dans d'autres continents et dans d'autres pays, en fonction évidemment des crises, des urgences, où nos équipes peuvent se déployer assez rapidement.
Ah, d'accord. Mais actuellement, vous avez déployé des campagnes de vaccination. De quelles campagnes s'agit-il ?
Alors, au niveau, depuis l'historique d'Elma, on a évidemment participé à de multiples interventions sur la vaccination, en appuyant les autorités sanitaires lors de la mise en œuvre de campagnes, notamment pour répondre à des épidémies comme rougeole, méningite, sur lesquelles on intervient assez régulièrement. On appuie aussi évidemment tout ce qui est programme en fait de prévention, les programmes qu'on appelle de routine. Mais disons que depuis fin mai 2021, nous avons soutenu les autorités sanitaires pour les appuyer pour la vaccination contre la COVID-19. À ce jour, on a pu, grâce à ces programmes et en partenariat avec nos partenaires dans nos pays d'intervention et surtout les autorités sanitaires, on a pu participer à l'administration de plus d'1 200 000 doses de vaccins contre la COVID qui ont pu être administrées notamment dans les zones les plus reculées, les plus difficiles d'accès, pour essayer finalement de réduire les difficultés d'accès qu'il peut y avoir pour certaines personnes qui sont plus éloignées, dans des conditions plus difficiles, etc.
Et comment mobilisez-vous les gens pendant les campagnes ? Est-ce que vous faites du porte-à-porte, vous faites des campagnes ? Comment ça se passe ?
Alors, on a plusieurs stratégies parce que comme, en fait, on intervient vraiment dans différents pays, différents contextes. Donc, en gros, aujourd'hui, nos programmes de vaccination contre la COVID, ils sont menés en Mauritanie, au Mali, en Guinée, au Niger, au Tchad, en RDC, en RCA et au Nigeria. Donc, ça fait déjà 8 pays dans lesquels on intervient. À l'intérieur même de ces pays, on a parfois plusieurs projets qui sont dans des zones qui peuvent être très différentes. Donc, concrètement, on a vraiment des stratégies qu'on essaye d'adapter finalement à chaque contexte. Parce que les contextes sont différents. On travaille dans des zones urbaines, dans des capitales, mais on travaille aussi dans des zones beaucoup plus reculées. Et donc l'idée, c'est vraiment d'adapter les stratégies de mobilisation aux différents contextes dans lesquels on intervient. Mais si on peut résumer un peu la principale stratégie, c'est vraiment de s'appuyer sur la communauté. C'est ce qu'on a développé notamment pour créer cette adhésion et pour que finalement les programmes de vaccination s'intègre dans les activités de la communauté et qu'il y ait une bonne compréhension, une bonne stratégie qui convient en fait aux populations. Donc en gros, pour faire simple, on essaye de créer ce qu'on appelle des comités de mobilisation pour la vaccination avec des leaders de la communauté, des représentants des différents groupes de la communauté, et des personnes influentes dans ces communautés. C'est avec eux qu'en fait on essaye de construire à la fois nos stratégies de mobilisation et de communication, c'est-à-dire travailler les messages, les faire participer à la co-construction de ces messages, réfléchir avec eux et prendre vraiment leurs avis sur quelles stratégies on doit mettre en place. Donc par exemple, vous parliez à juste titre du porte-à-porte, et ça peut être un des panels de stratégies qu'on peut déployer. Mais notre idée, c'est de pouvoir les construire avec la communauté pour qu'elles nous disent à leurs avis, eux qui sont les représentants des différents groupes, que ce soit ethnique, que ce soit religieux, que ce soit homme-femme, que ce soit les personnes jeunes, les personnes âgées. C'est eux qui vont finalement nous orienter, connaissant exactement comment fonctionne la communauté, qui nous oriente sur comment adapter les meilleures stratégies, que ce soit pour la mobilisation. Et donc la sensibilisation, la communication, l'engagement communautaire autour de la vaccination et créer cette adhésion, mais aussi même sur les stratégies, le déploiement elle-même de la stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut des sites fixes, est-ce qu'il faut se déployer sur des marchés, est-ce qu'il faut se déployer au porte-à-porte, dans quelle zone il faut plutôt telle stratégie. Donc c'est tout ça, c'est de les construire avec les communautés. C'est surtout ça, et après on adapte évidemment, comme je vous le disais, les contextes dans lesquels on travaille sont vraiment différents. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à la meilleure stratégie qui correspond au mieux aux besoins des populations avec lesquelles on travaille.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Dans plusieurs pays, notamment en Afrique, les gens sont un peu réticents à l'idée de se faire vacciner. Est-ce que vous êtes aussi confronté à cette réticence des populations ?
Oui, ça arrive, évidemment. Alors nous, ce qu'on a noté, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des contextes très différents. On a dans certains de nos projets, dans certaines zones, une bonne adhésion à la vaccination, en plus de toutes les stratégies dont je viens de citer un peu, qui facilitent en fait, qui améliorent, qui permettent de mieux comprendre finalement quelles sont les perceptions, quels sont les messages qui circulent auprès de la communauté et potentiellement revenir aussi avec des messages pour essayer de faciliter cette adhésion. Il y a des endroits où c'est plus difficile et nous, ce qu'on a noté, c'est qu'en général, c'est plus compliqué dans les zones urbaines, notamment du fait que les gens sont peut-être plus usagers des réseaux sociaux et donc sont peut-être plus soumis à la circulation de fake news, comme on l'a vu dans le monde entier. Hein. Ce n'est pas du tout spécifique à l'Afrique. Je pense que c'est au niveau mondial, évidemment, qu'on est confronté à cette problématique de circulation de fausses informations. Et ça, évidemment, nous, ce qu'on note avec notre recul, c'est que sur les terrains dont nous, on travaille, c'est plus présent dans les zones urbaines. Alors, pas toutes, parce que c'est encore une fois très différent d'un pays à l'autre, mais on note quand même cette différence, notamment par, on suppose que c'est en lien avec l'accès, ou en tout cas la facilité d'usage ou l'habitude d'usage de cette circulation de fausses rumeurs.
Donc, dans l'ensemble, les zones rurales sont plus réceptives aux vaccins anti-Covid plutôt qu'en ville.
En tout cas, c'est un plus gros défi en zone urbaine et ça nécessite de pouvoir essayer de comprendre en fait quels sont les messages qui circulent, comprendre où les gens s'informent, qui sont les personnes qui informent finalement la communauté pour essayer de travailler ces messages-là, d'autres messages pour faciliter l'adhésion à la vaccination en effet.
En dehors de cette réticence qui peut survenir de temps en temps, quels sont les autres défis auxquels vous êtes confrontés?
Alors concrètement, au début de nos actions, on a été confrontés au défi d'accès à un nombre de vaccins suffisant, notamment, encore une fois, pour les zones les plus éloignées, dans des contextes qui sont parfois difficiles d'accès. Mais ça, on peut dire que réellement, la situation, elle a énormément changé depuis déjà pas mal de temps. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup plus de vaccins disponibles dans nos pays d'intervention. Après, voilà, il y a toujours des défis logistiques pour qu'ils puissent être acheminés dans les zones les plus reculées, parce que c'est vrai qu'on intervient, en tout cas à Lima. Alors, bien sûr, on travaille aussi, comme on l'a dit, dans des zones plus urbaines ou dans des capitales, mais on a aussi beaucoup de nos projets qui sont finalement dans des zones d'accès difficiles. Et là, on est plus confronté aujourd'hui à des difficultés du fait de l'insécurité, parce qu'on travaille dans des contextes qui sont parfois soumis à de l'insécurité, comme le Nord-Mali. On a aussi la situation qui peut être le cas aussi au Niger, au niveau du lac Tchad et d'autres contextes comme le Nigeria. Donc aujourd'hui, on a cette problématique-là. On a aussi parfois des problèmes d'accès du fait du climat, hein, saison des pluies, donc forcément des centres de santé, des populations qui vont être moins accessibles, en tout cas plus difficilement. Après, l'autre défi qu'on a, c'est de pouvoir, en tout cas nous, ce qu'on s'est donné à Lima comme objectif, c'est d'essayer de s'assurer que les personnes vulnérables, donc les personnes qui sont à risque de faire une forme sévère, grave de la maladie, ou aussi le personnel soignant qui est en première ligne pour soigner les cas de Covid, mais aussi toutes les autres pathologies qui sont présentes dans nos pays d'intervention. Donc c'est aussi un défi d'arriver à ce que des personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, pour résumer les personnels de santé, puissent avoir accès à ces vaccins. Or, ce n'est pas des personnes qui sont très habituées à avoir recours aux soins parfois, qui sont parfois en dehors des systèmes de santé, qui peuvent aussi parfois pas facilement se déplacer. Donc ça, c'est un vrai défi sur lequel on essaye encore une fois d'élaborer des stratégies pour toucher le plus de personnes vulnérables possible, parce qu'on sait que c'est eux qui vont malheureusement, s'ils attrapent la Covid-19, potentiellement devoir être hospitalisés, voire décédés, et on le voit hein, dans les chiffres sur l'ensemble des pays d'intervention du monde, et c'est aussi valable en Afrique, les personnes qui sont dans les hôpitaux ou les personnes qui décèdent de la Covid restent, sont les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. Et donc nous, on essaie vraiment que ces personnes-là aient un maximum d'accès à ces vaccins en développant des stratégies ciblées sur eux, une mobilisation communautaire ciblée sur ces personnes, et aussi des stratégies, comme vous parliez tout à l'heure, porte-à-porte, ou en tout cas de trouver des moyens que ces personnes puissent avoir accès à ces vaccins.
Maintenant que la vie reprend un peu son cours normal, comme d'avant le Covid-19, beaucoup d'interdictions ont été levées, quelle est l'importance de se faire vacciner contre le Covid-19?
Alors oui, c'est une question qui peut survenir. Alors, il y a, même si la situation peut paraître un peu plus calme, il y a quand même assez régulièrement des alertes ou en tout cas des remontées de cas, donc on reste très vigilant par rapport à ça. Une des difficultés, c'est un peu du fait de ce que vous disiez, que la situation au niveau global, au niveau mondial, peut-être est un peu plus calme, il y a pas mal de restrictions qui sont levées. Une des difficultés, ça a été depuis le début finalement le fait que ça soit très sous-diagnostiqué aussi dans nos contextes d'intervention en Afrique. Finalement, on sait aujourd'hui avec les enquêtes de séroprévalence qui ont été menées dans différents pays que malheureusement beaucoup de gens ont été touchés par la Covid. Des personnes sont décédées sans forcément qu'on le sache. Et ça, c'est sûr que c'est plus difficile d'arriver à convaincre des communautés ou des personnes de se faire vacciner. Si finalement, eux, dans leur quotidien, ils voient moins le virus. Mais ça, c'est tout le travail de l'engagement communautaire qu'on essaye de mettre en place pour déjà expliquer que c'est encore une fois de la prévention. Et donc, c'est pour éviter la survenue de nouvelles vagues et potentiellement éviter à des personnes, notamment les personnes à risque de faire des formes sévères, d'avoir des conséquences suite à la Covid et parfois même de décéder, qu'il est important aujourd'hui de se faire vacciner. Donc, dans l'ensemble, ça reste un défi, mais on va dire que clairement c'est grâce à la mobilisation communautaire et l'engagement qu'on fait auprès des populations qu'on arrive finalement à ne pas être trop confronté à cette problématique. Et voilà, comme je vous le disais, il y a encore un certain nombre de pays régulièrement qui ont des augmentations de cas. Et donc, on voit bien que malheureusement, on n'est pas encore complètement sorti de cette pandémie et que le risque est encore présent et que la vaccination a encore toute son importance.
Combien de temps va durer la vaccination, toute cette campagne contre le Covid?
Alors ça, c'est vraiment très, très difficile pour nous de dire ça. Je pense que ça, c'est des questions plutôt au niveau mondial. Ça dépendra, je pense, de plein de facteurs et à quelle vitesse on arrive à vacciner les personnes qui ont été ciblées pour cette vaccination. Donc, je saurais pas me prononcer, mais je pense qu'on a encore plusieurs mois pour pouvoir atteindre les objectifs que se sont fixés le monde pour une couverture vaccinale qui permettrait de réduire la transmission du virus et d'éviter surtout les formes sévères.
Avez-vous des partenariats avec d'autres ONG ou avec les gouvernements locaux?
Alors nous, on travaille complètement en partenariat avec l'ensemble des... Donc, dans chaque pays d'intervention à Lima, on travaille vraiment en collaboration avec les ministères de la Santé. On travaille avec eux, souvent alors là sur la vaccination au sein de leur structure, en stratégie avancée. Mais voilà, quand on fait aussi d'autres programmes, on travaille vraiment main dans la main en fait, avec les autorités sanitaires. Et dans nombreux pays à Lima, on travaille aussi en partenariat avec des ONG nationales. Prenons peut-être l'exemple du Mali, du Niger, du Tchad et d'autres dans lesquels on est vraiment en partenariat avec une ONG ou des ONG nationales et on mène nos opérations conjointement.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pour terminer, quel est le conseil que vous donnez à toutes les personnes qui nous suivent et qui pensent que le Covid se conjugue déjà au passé?
Comme je le disais tout à l'heure, je pense que malheureusement, on n'est pas encore complètement sorti de cette pandémie. On le voit assez régulièrement, que ce soit sur un continent ou sur un autre. On voit une augmentation des cas. On sait aujourd'hui que malheureusement, et notamment moi j'insisterai sur les personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, et évidemment le personnel de santé, il n'est pas encore, notamment en Afrique, massivement vacciné. En tout cas, peu encore eu accès à cette vaccination. Et pour se protéger eux et pour le reste, pour protéger les autres, il reste important de pouvoir se faire vacciner parce que malheureusement, on n'est pas encore, la pandémie de Covid n'est pas encore terminée.
Merci encore d'avoir été notre invité pour cette émission.
Merci beaucoup à vous de parler de nos actions et n'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions ou des points sur lesquels vous voulez que je revienne. On peut évidemment échanger par mail si besoin d'informations complémentaires.
C'était notre entretien avec Mélanie Tarabo, responsable médicale opérationnelle au sein d'Alima, une ONG basée à Dakar au Sénégal et qui répond aux situations d'urgence médicale en Afrique. Maintenant, place à Carnet de santé, présenté par Lina Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, Un regard sur l'hémophilie, un trouble sanguin caractérisé par une anomalie de la coagulation du sang. Le professeur Johnny Malangu d'Afrique du Sud nous en dit plus sur l'hémophilie. Ensuite, notre taille diminue-t-elle avec l'âge? La réponse dans Vrai ou Faux. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est un trouble hémorragique héréditaire dans lequel le sang ne coagule pas correctement. L'hémophilie, c'est de cela qu'il s'agit, peut entraîner des saignements spontanés ainsi que des saignements consécutifs à des blessures ou à une intervention chirurgicale. Cela est dû à l'insuffisance de protéines de coagulation sanguine dans le sang. Les personnes atteintes d'hémophilie peuvent avoir des saignements spontanés dans les articulations, les muscles ou d'autres parties de leur corps. Selon la Fédération mondiale de l'hémophilie, plus de 200 000 personnes dans le monde en ont été diagnostiquées en 2020. Le traitement de cette maladie rare est coûteux partout et presque impossible dans les pays africains. Reportage d'Id Ouessou de Dar es Salaam en Tanzanie. Récit de Nani Talani.
Abdul Sadiq Mina est hémophile. Il est susceptible de souffrir de saignements excessifs ou graves lorsqu'il a une coupure ou une blessure. Il dit que la maladie a été détectée très tardivement et lui a causé des souffrances à long terme et une invalidité permanente.
Parfois, vous pouvez être endormi et du sang sort des dents et les oreillers sont pleins de sang. Je n'ai pas reçu de diagnostic d'hémophilie et j'ai été traité par des dentistes. Parfois, ma main était enflée et lorsque je faisais des exercices, je devais les arrêter et cela prenait généralement plus de 2 semaines et nous n'avions pas de facteur, ce qui a entraîné la paralysie du bras.
Joséphine Kibaja, la mère du jeune Edson atteint d'hémophilie, raconte que le manque d'éducation sur la maladie lui a fait perdre son premier enfant. Un mauvais souvenir. Elle ne veut pas qu'il se répète avec son fils Edson.
Le bébé a grandi avec une hernie qui empirait. Je l'ai emmené à l'hôpital et ils nous ont dit qu'il devait se faire opérer. Je ne savais pas s'il était hémophile. Il a subi une intervention chirurgicale, mais le jour même où il est sorti, il était environ midi, à 13h, le bébé n'avait plus de sang à cause d'un saignement. Il était faible, il a dû avoir une transfusion sanguine, mais quand ils l'ont coupé, il était très enflé. Après 2 ou 3 jours, il a perdu la vie. Mais je ne le savais pas et les médecins ne le savaient pas.
L'hémophilie est généralement causée par un manque héréditaire d'un facteur de coagulation, le plus souvent le facteur 8. La gravité de l'état d'une personne est déterminée par la quantité de facteurs dans le sang. Plus la quantité de facteurs est faible, plus il est probable que des saignements se produiront, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé.
Et si les patients hémophiles développent une déficience en facteur 8, ce que nous appelons l'hémophilie A, et c'est la majorité des patients, au moins environ 80%. 20% des patients ont un déficit en facteur 9 qui s'appelle l'hémophilie B, mais il y a l'hémophilie C où les patients ont un déficit en facteur numéro 11.
Les efforts du docteur Ouizaoula de l'hôpital Mouimbili et d'autres parties prenantes ont soutenu la création de cette clinique spéciale.
Le docteur Johnny Malangu est professeur d'hématologie et directeur de l'école de pathologie de la faculté des sciences de la santé de l'université du Witwatersrand et du National Health Laboratory Service de Johannesburg en Afrique du Sud. Il nous en dit plus sur les défis de la lutte contre l'hémophilie en Afrique et partage certaines solutions.
L'hémophilie est un trouble majeur rare où un individu naît sans la capacité de former de caillots sanguins. Donc, en bref, l'hémophilie est une déficience en facteur de coagulation et dans le cas de ce que nous appelons l'hémophilie A, c'est une déficience en facteur de coagulation 8. Et l'hémophilie B est une déficience en facteur de coagulation 9. L'hémophilie est ce que nous appelons une condition liée à l'X. Cela signifie que les femmes sont porteuses et que les hommes sont touchés. Et la raison pour laquelle les femmes sont porteuses, c'est parce qu'elles ont environ 2x. Ainsi, le X normal est capable de compenser le X anormal, ce qui les protège dans une certaine mesure contre une hémophilie à part entière. Cela dit, il y a en fait des femmes qui saignent, tout comme les hommes atteints de la maladie. L'hémophilie a en fait une prévalence uniforme à l'échelle mondiale. On parle d'une naissance vivante sur 5000 dans le cas de l'hémophilie A et d'une naissance vivante sur 25 000 dans le cas de l'hémophilie B. Le saignement dans les articulations endommagera alors principalement le cartilage de l'articulation, puis l'os de l'articulation, entraînant les articulations endommagées. Bien sûr, si vous saignez dans n'importe quel système organique, que ce soit le cerveau, les yeux ou la bouche, vous êtes susceptible d'avoir des complications associées au fonctionnement de cet organe. En 2020, nous avons déclaré la prophylaxie comme la nouvelle norme de soins à l'échelle mondiale. Vous empêchez en fait le saignement de se produire. Nous donnons le facteur de coagulation manquant 8 pour élever le niveau du facteur de sorte que le patient ne saigne pas spontanément. Nous avons maintenant d'autres thérapies, autres que la thérapie de remplacement, par exemple des thérapies que vous administrez par voie cutanée et qui ne sont pas réellement des facteurs, mais elles permettent la formation de caillots qui remplissent la même fonction que le facteur 8. La différence est qu'elle est administrée sous la peau par opposition à la thérapie de remplacement qui est administrée de manière réactive et que vous devez souvent administrer dans la veine. En 2022, nous ne nous attendons pas à ce qu'une personne atteinte d'hémophilie ait une durée de vie limitée. Nous ne nous attendons pas à ce qu'une personne atteinte d'hémophilie ait des complications majeures associées à cette maladie. Nous avons l'expertise et les traitements qui peuvent prévenir tout cela.
Il est dit que plus on vieillit, plus le corps rétrécit et nous rapetissons progressivement avec l'âge. Est-ce une idée reçue ou une réalité biologique? Les experts disent que oui, nous perdons en hauteur avec l'âge. Selon la Cleveland Clinic, basée ici aux États-Unis, il est normal de perdre de la taille lorsque l'on vieillit. Au fil des ans, les disques entre les vertèbres de la colonne vertébrale s'aplatissent, les muscles commencent à perdre de la masse et les espaces entre les articulations se rétrécissent. Les hommes peuvent perdre progressivement au moins 2 cm entre 30 et 70 ans et les femmes peuvent perdre jusqu'à 4 cm. Cependant, une perte de taille importante en vieillissant peut être le signe d'un problème beaucoup plus grave comme l'ostéoporose, une maladie qui affaiblit les os et peut provoquer des fractures soudaines et inattendues. Les experts recommandent de manger des aliments riches en calcium et en vitamine D, tels que les produits laitiers, les fruits et les légumes, faire de l'exercice physique régulièrement et maintenir une bonne posture. Le sud du Malawi a commencé à enregistrer des cas de choléra. Les autorités sanitaires du pays affirment que la maladie est en grande partie le résultat des inondations causées par la tempête tropicale Ana et le cyclone Gombe, qui ont frappé le Malawi au cours des 2 derniers mois. Plus de 30 personnes ont été infectées et au moins 2 ont perdu la vie. Le ministère de la Santé du Malawi a déclaré qu'il distribuait du chlore aux communautés des zones touchées pour le traitement de l'eau et qu'il envoyait des informations sur la lutte contre le choléra à toutes les personnes par le biais de divers canaux de communication. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par des bactéries.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Dans ce programme, nous avions reçu Mme Mélanie Tarabo d'Alima, une ONG basée à Dakar, au Sénégal. Mélanie Tarabo est référente COVID et responsable médicale opérationnelle au sein de l'ONG. Nous avions discuté des campagnes de vaccination anti-COVID que l'ONG mène en Afrique de l'Ouest pour aider les populations à se protéger contre cette maladie qui est loin d'être terminée. Nous avions également échangé sur quelques activités d'Alima. Ensuite, Linor Moudou a présenté Carnet de santé dans la deuxième partie de notre programme. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre